CJSO 101.7. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochambeau.
Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission. Alors que s'achève le mois de la francophonie, comment le français se porte-t-il chez nous? Est-ce qu'on le parle, l'écrit, le chante, l'affiche, l'adopte de plus en plus, puis de mieux en mieux, ou est-ce que c'est le contraire? J'en discute dans les prochaines minutes avec Mario Beaulieu, député de la Pointe-de-l'Île et porte-parole du Bloc québécois en matière de langues officielles. Françoise Crête, conteuse, présidente du Festival de contes Flots de paroles de Verchères. Diane Lapointe, présidente du regroupement littéraire Jeunesse de Saint-Ours. J.C. Lauzon, chanteur, comédien et prof de francisation. Madeleine Blanche-Lucier, qui fut gestionnaire de carrière au gouvernement du Québec. Elle est l'auteur de livres sur l'histoire des familles fondatrices de Sorel-Tracy et c'est une passionnée de généalogie. Yann McClure, enseignant en histoire. Charles Robert, auteur, compositeur, interprète. Et Nathalie Rochefort, ex-députée de Mercier, candidate libérale dans Bécancour-Nicolas Sorel en 2019 et 2021 et présidente de De Gama Fondation. De retour après la pause.
Yann Sénateur. CJSO.
Salut, c'est Alex. On fait encore de la radio en semaine de 6 à 9 avec les meilleurs chroniqueurs, plein d'entrevues également qui racontent l'actualité de la région et à l'échelle nationale. Et en plus de ça, le printemps, c'est payant. 101,07 $ chaque jour que vous pourriez gagner de 8h05.
Yachtsé Matin, du lundi au vendredi, 6h.
Meubler des bonjours.
Oui, j'aimerais parler à Jérémy Demé, s'il vous plaît.
Ben là, monsieur, c'est pas parce qu'il joue des annonces que...
Ben justement, on est dans une annonce.
Excellent point. Jérémy?
Oui, allô?
Hey, je veux juste te remercier personnellement de payer les taxes pour tout le monde. Hey, ça doit te coûter un bras, ça.
Ben là, c'est pas vraiment moi qui...
Merci d'être qui tu es.
Bon.
Jusqu'au lundi de Pâques, on paie les deux taxes sur tous les meubles et matelas à prix régulier. Meubles RD. Bien se meubler, moins dépenser.
Chez Iris, nous savons qu'un accident peut arriver. C'est pour cette raison qu'on vous protège avec notre garantie inconditionnelle offerte gratuitement. Saviez-vous que jusqu'au 9 juin 2024, une paire de lunettes complètes peut être à vous à partir de seulement 299 $? Pas besoin de faire de compromis. Vous trouverez ce qui convient à votre style et votre budget. Pour plus de détails et pour prendre rendez-vous, visitez iris.ca. Iris, vision d'exception, style remarquable. Dr. Jaël Saint-Jacques, optométriste.
Vous souhaitez vous lancer en affaires, vous êtes un entrepreneur en processus de démarrage, d'acquisition ou d'expansion d'une entreprise. Stratégie Jeunesse pour les 18 à 39 ans est là pour vous. Stratégie Jeunesse, c'est une solution de financement souple et de l'accompagnement technique qui aide les entreprises à mieux déployer leurs forces. Faites comme plusieurs entrepreneurs d'ici, venez rencontrer un conseiller à votre SADC Pierre de Sorel.
Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune.
Alors que s'achève le mois de la francophonie, comment le français se porte-t-il chez nous? On parle d'abord à Mario Beaulieu, qui est député de la Pointe-de-l'Île, circonscription de l'Est de Montréal. Il est aussi porte-parole de son parti, le Bloc québécois, en matière de langues officielles. Bonjour, M. Beaulieu.
Bonjour, M. Rochon.
Votre lutte en faveur du Québec français remonte à bien avant votre élection au Bloc. On vous a vu mener ce combat-là à la présidence de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal de 2008 à 2014, puis du Mouvement Québec français de 2011 à 2016. Vous avez même, si mon souvenir est bon, fondé le Mouvement Montréal français. Êtes-vous plus inquiet pour le français en 2024 que vous l'étiez en 2008 ou en 2011?
Oui, si on regarde les statistiques, c'est sûr qu'il y a eu un déclin important du français. Si on regarde, par exemple, les gens qui utilisent principalement le français à la maison, en 2001, il y en avait 83% du Québec, et en 2021, c'est 79,1%. Alors, globalement, dans l'ensemble du Québec, la proportion de francophones est tombée en bas des 80%. Et on sait qu'à Montréal, ça décline très rapidement. Ce qui est plus encourageant, c'est qu'on en parle, on entend de plus en plus parler de la question du français. Ça inquiète les gens. Il y a eu un projet de loi, bon, il y a eu la loi 96 qui vise à renforcer un peu la loi 101, mais le gouverneur fédéral, lui, continue à financer l'anglicisation.
Bon, voilà, on va aller là-dessus. Là. Vous avez réalisé une étude à partir des comptes publics du Canada. Conclusion de votre étude, 2 milliards de dollars, ça c'est 60 millions en moyenne par année, ont été accordés depuis 30 ans par Ottawa aux établissements et aux groupes anglophones du Québec. Une partie de ces sommes, c'est ça que vous alliez me dire, là, ayant servi à financer la contestation de certaines lois québécoises. Expliquez-nous ça là, plus avant.
C'est ça. En fait, on a les données de façon systématique de 1995 à 2022. Mais on a retracé près de 3,5 milliards de dépenses. Et le problème qu'il y a, c'est que le gouvernement fédéral considère qu'au Québec, dans le fond, la majorité canadienne est anglophone, mais comme au Québec, elle est minoritaire en termes numériques, tout le financement des langues officielles pour le Québec va à 94 % pour l'anglais.
Alors que vous, ce que vous dites, c'est que l'anglais n'est pas menacé au Québec.
Bien, l'anglais n'est pas menacé, c'est le français qui est menacé. Et les anglophones au Québec, même l'ONU ne les reconnaît pas comme une minorité parce qu'ils font partie de la majorité de l'État canadien. Même il y a une décision d'un comité du droit de la personne de l'ONU qui a dit, par contre, une majorité dans une province peut revendiquer les droits d'une minorité si elle est minoritaire à l'échelle de l'État canadien. Alors, il n'y a pas de raison pour que l'immense majorité du financement fédéral en matière de langue officielle soit consacrée à l'anglais. Et ça va pour les écoles, les cégeps, les universités. Il y a des programmes... il y a une partie du financement moindre qui va pour l'enseignement de l'anglais dans les écoles françaises. Mais il y a des fonds d'appui à l'accès à la justice en anglais pour les services en anglais en santé. Si on regarde les groupes de pression anglophones qui sont très, très actifs là, pour contester la loi 101 et maintenant ils vont contester la loi 96, c'est déjà commencé. Et le gouvernement fédéral, dans le fond, en 77, après l'établissement de la loi 101, c'est le gouvernement Trudeau, père, qui a lancé le programme de contestation.
OK. Monsieur Beaulieu, il nous reste, ça va trop vite, là, il reste 30 secondes. Après avoir dit que le français est menacé, que les indices sont pas bons pour l'avenir, on fait quoi pour stopper l'hémorragie? Là, c'est un grand défi de me dire ça en 30 secondes.
Il faut se mobiliser. Il faut que le plus de gens possible au Québec sachent que le gouvernement fédéral vise à financer et à promouvoir l'anglais au Québec. Ça doit cesser. Et le Québec doit être libre, doit être le maître d'œuvre de sa politique linguistique. Et on pourrait facilement inverser la tendance pour le français.
Merci beaucoup, Mario Beaulieu.
Merci. Au revoir.
Salut, à la prochaine. Nathalie Rochefort. Appartient à une autre famille politique. Elle a été députée libérale de Mercier à l'Assemblée nationale du Québec de 2001 à 2003 et chez nous, dans Bécancour-Nicolas Sorel, candidate libérale fédérale en 2019 et 2021. Elle dirige De Gama Fondation qui guide, accompagne et réfère les personnes qui émigrent au Québec, qui s'y soient établies depuis quelques jours ou depuis des dizaines d'années. Bonjour Nathalie Rochefort.
Bonjour. Toujours en forme?
Toujours. Est-ce que vous partagez, Nathalie, la lecture de Mario Beaulieu sur la situation du français au Québec? La situation est-elle, comme il l'estime, là,
Mario a mangé du clown, honnêtement, là. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, il y a de plus en plus le français est de moins en moins la première langue parlée, mais il y a de plus en plus de gens qui parlent le français. Ça a été démontré au niveau mondial par Natixis, qui est une grande banque française. En 2050, le français va être la langue qui compte le plus de locuteurs sur la planète. Et ça, en raison de la montée de l'Afrique francophone et du Maghreb. Deuxièmement, Mario, ça sert surtout au Québec. Québec, c'est le fun. OK, c'est le fun. Mais en même temps, il faut se rappeler qu'on est 2,6 millions de francophones hors Québec, dont on doit tenir compte aussi, qui ont besoin de nous. Et le budget dont il parlait au niveau de la promotion de la langue seconde, qui est l'anglais au Québec, c'est les budgets qui sont aussi répartis dans les 9 autres provinces et 3 territoires.
Vous me partagez, Nathalie, la semaine dernière, quand on s'est parlé en marge de cette émission, votre point de vue que la qualité de la langue, la survie du français, ça repose aussi beaucoup et peut-être même surtout sur les locuteurs francophones eux-mêmes, sur la façon dont ils le parlent et l'écrivent, le français. Vous me disiez une langue qui est négligée par ses locuteurs, c'est pas une langue attractive.
Ben exactement, quand j'entends certains jeunes, je veux pas dire tous parce que c'est pas le cas, mais quand j'entends la plupart des jeunes autour de moi qui ont de la difficulté à trouver les bons termes en français, même si toute leur phrase est construite en français, le sens d'anglicisme, je suis inquiète. Il y a un manque de vocabulaire et c'est ce qui va entraîner la perte du français selon mon expérience. Parce que pour bien parler une langue, il faut quand même maîtriser un minimum de mots. T'sais, je leur demande pas de faire de la différence entre évaluation et estimation, mais quand même.
Vous œuvrez, j'en faisais part, vous œuvrez en tant que... vous présidez une fondation qui œuvre auprès des personnes immigrantes. Okay. Est-ce que vous observez... Oui, est-ce que vous observez chez elles, chez les personnes immigrantes, un profond désir d'intégration culturelle, linguistique?
D'intégration culturelle et linguistique, au niveau du français.
Alors, vous percevez ce désir?
Oui, et c'est pas une langue facile à apprendre, le français, là. On se le cachera pas. Et c'est plein de mots d'exception, donc des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui veulent dire d'autres choses. Donc, à un moment donné, ça devient complexe. Donc, oui, on l'observe, mais ce qui va être la prémisse à l'intégration, ce n'est pas nécessairement la langue, c'est d'abord la culture. Nous, on œuvre beaucoup sur le partage. On parle souvent de nourriture, parce que qu'ont en commun tous les peuples de la Terre, on bouffe. Qu'on s'en tire pas. D'où le nombre de Gamma, parce qu'on a en commun les épices aussi. Mais ces nuances-là, dans la bouche d'un jeune franco-québécois ou même des plus vieux, n'existent plus. Les références culturelles sont moins là. Est-ce que c'est de la faute à l'école? Est-ce que c'est de la faute à la montée des médias sociaux? Je saurais le dire. Mais chose certaine, on assiste à un déclin de la qualité du français. Ouais.
Je veux vous entendre une minute, parce que c'est le temps qui nous reste, Nathalie, sur quelque chose qu'a dit Jean-François Roberge. Je le cite. Il y a des choses... Il parle des demandeurs d'asile. Je le cite. Il y a des choses qui sont menacées. Il y a des services qui sont menacés. Il y a une manière de vivre qui est menacée lorsque le nombre de demandeurs d'asile est trop grand. Il faut nommer les choses. Est-ce qu'il a raison, M. Roberge, ou est-ce qu'il revient à la recette là, du danger de l'immigration qui a fait la fortune de la CAQ? Là? Il voit les appuis au parti s'évaporer, puis il revient avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est une réaction de peur à la base, peur de l'autre, peur de ne pas être capable d'aller vers l'autre. Donc, cette peur-là, c'est une peur qui est viscérale, donc on peut difficilement la contrôler. Mais chose certaine, quand on prend le temps de s'intéresser à une personne immigrante ou réfugiée ou demandeur d'asile, peu importe le terme qu'on leur donne, ben on peut partager des expériences communes. Si j'assois dans la même salle des parents immigrants, des parents réfugiés, des parents nés au Québec, et je leur demande « c'est quoi ta réalité parentale? », on crée des ponts entre les gens. Donc, on diminue les peurs parce que tout le monde se rend compte que « wow ». OK, les problèmes, les défis que j'ai avec mon enfant, les joies que j'ai avec mon enfant, ben, ils sont communs. Et c'est là-dessus qu'on doit miser. On doit arrêter de miser sur ce qui fait peur à tout le monde.
Merci, Nathalie. Ça va être ton mot de la fin. Merci, Nathalie Rochefort.
Bon, OK, merci. À bientôt.
Salut. Bye. Bien. Nous connaissons bien J.C. Lauzon, le comédien, J.C. Lauzon, le chanteur, un peu moins J.C. Lauzon, le prof. Bon, il a eu son personnage là, du téléroman Virginie, mais là, je parle ici de prof dans la vraie vie. Il œuvre à la francisation. Salut, J.C.
Bonjour, M. Rochon.
Alors, vous donnez des ateliers de francisation, des cours de francisation. Parlez-moi, où et sous les auspices de qui et à qui?
Ben, ça me permet de dire merci à la commission scolaire Sorel-Tracy, au centre de services scolaires de Sorel-Tracy, de m'avoir engagé. Puis ça va faire 4 ans bientôt que, oui, j'œuvre dans la francisation dans les entreprises. Les entreprises d'ici, Régie Fab Spec, Usinage Richelieu, beaucoup de travailleurs dans la métallurgie. Et j'aime beaucoup ça, je trouve, et comme disait la dame avant, Madame Rochefort, c'est vrai que c'est complexe le français, on s'en rend compte quand on se met à l'enseigner. Quand on le parle, c'est pas dramatique, on trouve les mots, pour le parler, mais quand on l'enseigne, après, il faut expliquer pourquoi tous ces ENT à la fin des verbes au présent, on les prononce pas en français. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Mais moi, je m'amuse beaucoup avec ça, puis j'aime toutes les langues. Sincèrement, la bataille anglais-français, je l'ai vécue toute ma vie. Je vais avoir 70 ans cette année. Puis c'est tout le temps, ça va toujours être une bataille parce qu'on est en situation minoritaire sur le continent. Mais moi, je dis qu'il faut aimer les langues. Puis moi, ma solution pour le français, c'est de l'aimer, de le parler, d'en parler.
Ben, je reviens à vos élèves, là, de vos ateliers de francisation. Oui. Comment se débrouillent-ils? Est-ce qu'ils sont motivés? Vous le disiez, c'est très difficile d'apprendre le français. Est-ce qu'ils sont motivés? Ils sont encouragés?
Ils sont... ça dépend des jours. C'est sûr que quand on part sur les déterminants en français, puis tout le vocabulaire du grammairien, ça décourage. Ça décourage le monde d'apprendre le français, c'est certain, parce que. Mais en même temps, quand ils voient qu'ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent dans la société ou dans leur nouvelle vie, parce qu'ils sont dans une nouvelle société, une nouvelle communauté, ben là, ils sont encouragés. Moi, en tout cas, pendant mes cours, on a du plaisir. Les étudiants, les apprenants immigrants, que j'appelle, ils comprennent l'importance d'apprendre le français au Québec. Disons que ce que nous, on comprend pas, par contre, c'est que souvent, eux, c'est la quatrième langue qu'ils ont à apprendre, ces travailleurs-là qui viennent de loin. Et ce qu'on comprend pas, c'est que l'alphabet cyrillique, c'est totalement éloigné. C'est l'alphabet que les Ukrainiens et les russophones utilisent. Ben, je veux dire, c'est sûr que quand tu arrives en français, il y a un apprentissage encore en dessous de la base, là, parce que là, c'est les vis puis les bottes, hein?
JC, la situation du français, la qualifieriez-vous de particulièrement préoccupante? Les plus pessimistes n'hésitent pas à dire qu'on va assister à la louisianisation à petit feu du Québec. Est-ce que vous adhérez à ce discours-là?
Sincèrement, M. Rochon, non. Non, moi, je trouve pas ça. Je pense que le français en déclin, c'est une phobie plus française, peut-être, que québécoise. Puis moi, dans le livre que je viens d'acheter, là, le Repenser la francophonie québécoise, là, collectif, à la fin, ça se termine. Il n'y a pas de déclin du français, même que, selon eux, le français ne s'est jamais si bien porté. Parce que, dans le fond, ça dépend des statistiques qu'on utilise. T'sais? Parce que s'il y a dans les statistiques, on parle du français parlé à la maison. C'est certain que les Québécois ont fait plus d'enfants, alors la relève est pas là. Puis c'est normal que, je veux dire, moi, mes Philippins, ils parlent tagalog à la maison. Les Ukrainiens, ils parlent ukrainien à la maison ou russe. Ça, le français parlé à la maison, là, c'est en demander beaucoup. Puis l'autre affaire qui fait que j'ai pas peur, M. Rochon, c'est que dans la langue anglaise, qui est celle dont on a le plus peur, en même temps, celle qu'on désire le plus, il y a 2/3 de mots français. Et ce qui fait que l'anglais, avec sa propagation partout dans le monde, colporte avec lui le français. Le français est dans l'anglais. Alors, pour quelqu'un qui veut apprendre l'anglais au Québec, il faut savoir ça, qu'il y a 2/3 des mots anglais qui viennent du français. Et puis, moi, quand je le dis à mes étudiants, ils sont contents d'apprendre. Tous les Philippins parlent l'anglais. Les deux secondes langues les plus étudiées dans le monde sont l'anglais et, deuxièmement, le français. Alors, français, langue seconde, partout dans le monde. C'est un gros plus d'avoir cette langue-là dans son bagage. Alors,
merci beaucoup, JC Lauzon. Merci.
Au plaisir.
À la prochaine. Merci. Après la pause, François Scrète, Diane Lapointe et Charles Robert.
La bonne nouvelle économique. Une présentation de la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires.
Un nouvel immeuble se dressera enfin à l'angle des rues Georges et Duroy à Sorel-Tracy, sur le terrain demeuré vacant depuis l'incendie qui détruisait entièrement, il y a maintenant 5 ans, c'est-à-dire le 21 mars 2019, le Café Saint-Thomas, le dépanneur du centre-ville, le centre de coiffure masculine et des logements à l'étage supérieur. Le groupe Richelieu, qui a acquis de la ville en mars 2021, le site stratégiquement situé au centre-ville, débutera la construction ce printemps de ce nouvel immeuble. Il doit compter un resto-bar au rez-de-chaussée et des bureaux à l'étage. L'investissement est de l'ordre de 2,4 millions de dollars.
Les travaux devraient être terminés à l'automne.
La bonne nouvelle économique vous a été présentée par la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires.
La chronique Bienvenue chez nous à Saint-Joseph-de-Sorel vous est présentée ce mardi à 10h15 et à 15h30. Apprenez-en plus sur les activités de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel et sur les services offerts. Cette chronique est une présentation de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel.
Express Pub.
Tu as des problèmes de drogue, d'alcool ou de jeux pathologiques? Ou peut-être tu connais quelqu'un qui en a. N'hésite pas à nous contacter 24 heures par jour, 7 jours sur 7 et ce, 365 jours par année. Une équipe est là pour t'orienter dans tes démarches. Maison La Margelle, 450-746-2788.
Vous avez à cœur votre santé et celle de votre famille? Moi aussi. Ici David Gauthier. Dans les conseils Brunet sur les ondes de CJSO, on se pose des questions, on y répond et on vulgarise toutes sortes de situations. On prend soin de votre santé de la tête aux pieds. Du contenu informatif qui est loin d'être plate. Ça vaut la peine d'être bien renseigné. Alors, soyez à l'écoute les jeudis 17h15 pendant Valérie l'après-midi.
Les conseils Brunet. Présentation de David Gauthier, pharmacien propriétaire affilié à Brunet. À CJSO 101.7. Avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune.
Alors que s'achève le mois de la francophonie, comment le français se porte-t-il chez nous? Est-ce qu'on le parle, l'écrit, le chante, l'affiche, l'adopte de plus en plus et de mieux en mieux? Ou est-ce que c'est le contraire? C'est le sujet qui nous occupe ce midi. Ma prochaine invitée est conteuse, ce qui l'a fait voyager au Québec, bien sûr, mais aussi en Nouvelle-Écosse, en France, en Roumanie, en Arménie et en Suède. Elle préside un festival de contes, le festival Flot de paroles de Verchères. On joint Françoise Crête. Bonjour, Françoise.
Bonjour, Monsieur Rochon.
Le conte, c'est un genre littéraire avant tout oral. Est-ce que vous vous amusez, Françoise, avec le français, la musicalité de ses mots, sa richesse, sa subtilité? C'est un magnifique instrument.
Ah oui, absolument. En fait, les conteurs et les conteuses qu'on reçoit à chaque festival, on est à notre 5e édition. Là, celle-ci, ça sera du 15 au 25 mai à Verchères et dans les environs aussi. Oui, les artistes s'amusent. Ça permet, en fait, je trouve, de s'évader du quotidien et de promouvoir cette langue-là qui est le français, parce qu'on sait que de tout temps et dans toutes les civilisations, l'art oral, le conte, ça transmet et ça partage la culture et ça partage la langue aussi. Ça nous permet de penser, de créer puis de rêver aussi. Alors, les conteurs et les conteuses seront là, les spectacles seront surtout pour les adultes, mais il y a aussi des spectacles pour les enfants.
On va en reparler, Françoise. Vous avez promené, là, puis je reprends ce que je vous ai vu écrire en quelque part, vous avez promené vos godasses de conteuses à plusieurs endroits dans le monde. Est-ce que vous adaptez le français dans lequel vous vous exprimez en fonction de votre public, où vous parlez aux Français, pour prendre cet exemple-là, des Français, comme vous parlez aux Québécois?
Je vais vous raconter une anecdote, parce qu'à un moment donné, j'étais en Roumanie et j'étais arrivée un peu plus tôt. Je parle avec les gens qui sont là à l'Institut français. Et puis, j'allais faire un spectacle. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, ah oui, mais désolé, je m'en vais compter. Fait qu'elle me dit, la jeune femme de 20 ans me dit, ah, mais vous allez compter, mais c'est vous, mais je vous comprends. Mais j'ai dit, mais oui, parce que je parle français comme vous. Hein. C'était une personne qui apprenait le français, mais qui s'exprimait bien. Et puis, elle a réalisé qu'au Québec, oui, on pouvait avoir des accents, on pouvait avoir une couleur différente, un vocabulaire qui peut marquer des réalités qu'ils n'ont pas, les bancs de neige, etc. Et puis, mais que oui, on peut se comprendre parce qu'on parle la même langue. Alors, c'est ça qui est assez fascinant.
Comment vous estimez que la langue française se porte au Québec? Parle-t-on, écrit-on, chante-t-on le français de plus en plus et de mieux en mieux, ou est-ce que c'est le contraire?
Moi, je dirais que, vous savez, le conte a été très, très important dans les débuts de la colonie, après, dans les familles aussi. Je me rappelle qu'un certain Adélard Lambert, qui était conteur, qui venait de la Naudière, a dû partir avec sa famille en Nouvelle-Angleterre et il a dit que lui, c'est le conte qui a fait qu'ils ont gardé leur langue française. Fait que je pense que c'est la même chose ici au Québec. Maintenant, le conte, oui, qui était beaucoup dans les contes traditionnels, où on parlait des réalités, de ce qu'on vivait, de tout ce qui s'est passé avec les curés, puis le diable, etc., ça s'est modernisé. Il y a eu un renouveau dans les années 90, et puis le conte qui se passait dans les cuisines, où on perpétuait cette langue, toutes ces idées, ben ils sont rendus sur scène maintenant. Ils sont sur scène et c'est devenu vraiment des spectacles où le français, en fait, est évidemment important. Il y a beaucoup de festivals de contes au Québec et puis on va recevoir aussi des conteurs.
Bon, alors parlez-moi justement, là, le festival de contes Flots de paroles de Verchères, la 5e édition, c'est pour relativement bientôt, là.
Oui, 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 absolument. C'est du 15 au 25 mai. Et ça va être surtout pour les adultes, mais quand même, il y aura des spectacles dans des CPE, des écoles, et puis il y aura un spectacle gratuit pour les enfants. Mais c'est surtout des spectacles le soir pour les adultes, autant à Verchères, puis on a des partenaires à Varennes, à Sorel-Tracy, à Saint-Hyacinthe, donc les gens qui sont dans ces environs-là, les gens de Montréal aussi, on les invite à venir.
Ben, on espère qu'ils y seront, nous y serons. On peut trouver la programmation complète sur le web?
Oui, sur flotdeparole.com. La programmation va sortir le 2 avril sur le site et on a notre lancement aussi le 2 avril du festival.
Merci beaucoup, Françoise Crête.
Merci.
Merci. Bonjour. D'une conteuse, nous passons à un chanteur. Je joins l'auteur, compositeur, interprète Charles Robert. Bonjour Charles, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien. Je faisais le tour de vos albums et extraits. J'y vais du plus ancien au plus récent, Les Corps Invisibles, Contact Ontarois, Magique, Noël comme je le vois, Magique d'été remix, Déjouer l'erreur, Dance Floor, La mort de nous et Des fragments de lumière illuminent mon corps qui se souvient. C'est en français que vous écrivez, très majoritairement en français. Pourquoi? Je sais que la question peut paraître stupide, c'est votre langue, me direz-vous, mais elle se pose puisque beaucoup de jeunes chanteurs francophones font le choix d'écrire et de chanter en anglais. Vous auriez aussi pu faire ce choix-là. Pourquoi ne semblez-vous pas l'avoir fait?
Effectivement, en fait, j'ai déjà composé quelques chansons en anglais. Donc je dois avouer aussi que je suis pas parfaitement bilingue en anglais, donc c'est sûr, je me débrouille très bien, mais l'idée, comme initialement, lorsque je suis inspiré, clairement, le projet est toujours en français. Je trouve aussi qu'il y a une espèce de défi à chanter en français même, puisque justement, on entend souvent mais il y a quelque chose de très naturel avec l'anglais. L'anglais se chante très bien. Je ne sais pas comment le décrire mieux, là. L'anglais est comme coule dans la bouche en général. Donc, je trouve qu'il y a assez de faire de la poésie en français, la chanter, faire des belles mélodies. Il y a quelque chose qui... Puis quand c'est bien fait... Il y a quelque chose de magistral qui vient avec ça. Puis, tu sais, comme vous dites, c'est ma langue maternelle. Donc, pour moi, c'est... Je sais pas. Je m'en fais un devoir, bien honnêtement, aussi, de continuer d'écrire en français, même si parfois il peut arriver une chanson en anglais.
Mais les meilleures chances de... Ça aussi, ça peut avoir là une question bizarre, mais les meilleures chances de tourner à la radio québécoise francophone, on les a avec du matériel français ou anglais?
Français. Je dirais, mais moi, je compte pas nécessairement là-dessus, dans le sens que c'est un peu, je crée jamais en réfléchissant à un certain potentiel succès radiophonique. Tant mieux si la chanson est imprise puis qu'elle est jouée après ça, comme justement à CGSO, je sais qu'ils passent régulièrement mes chansons, puis j'en suis très content, mais d'emblée, je fais pas ça pour ça. Tant mieux si elle est prise après ça pour la diffusion.
Sur les plateformes d'écoute, par exemple, là, c'est moins joli, là, le français en arrache.
Oui, c'est vrai. C'est plus difficile. C'est ça, les playlists éditoriales, il y en a moins en français. Les gens, je sais pas, il y a peut-être un réflexe plus naturel d'aller écouter de la musique en anglais. C'est ça, faut vraiment valoriser cette culture-là en français. Puis je parle pas juste de la chanson, je parle de la culture en général. Qu'elle reste toujours très vivante.
Ben, J'allais justement, Charles, vous amener là-dessus. L'avenir du français au Québec, est-ce qu'il vous inquiète globalement? Oublions le seul domaine de la chanson plus globalement.
C'est une grosse question. me considère pas super expert pour avoir une grosse opinion là-dessus, mais ça m'inquiète pas, mais je pense qu'il faut jamais lâcher, en fait, parce qu'on a quand même des institutions qui sont français, le français majoritaire au Québec, mais il faut jamais rien prendre pour acquis. J'ai eu la chance, dans les deux dernières années, d'aller deux fois dans l'Ouest, dans les communautés francophones, au Manitoba, puis en Saskatchewan. Puis là, j'ai vraiment vu, en fait, j'ai vraiment vu un autre genre de reflet de c'est quoi la francophonie, qui est une minorité à travers l'anglophone, mais que justement, là-bas, ils se battent vraiment très, très fort. T'sais. Donc, c'est vraiment pas le même genre de réalité. C'est pas la même réalité, puis il faudrait pas jamais en venir à ça. Moi, j'ai trouvé que c'était des combattants pour leur langue incroyable. Ça m'a beaucoup inspiré. Je pense pas qu'on est là. Je pense que la langue aussi est en... La langue parlée, du moins, est en changement. Des fois, il y en a qui ont peur, là, parce que la langue, chez les plus jeunes, est comme un peu remaniée. Il y a des termes en anglais qui sont mis dedans. Je pense pas que c'est un problème, moi. Je pense que, justement, une langue, c'est faite pour être vivante. Il faut que ça bouge. Mais je pense qu'il faut quand même, dans l'apprentissage, du moins, il faut que la langue reste une priorité de base, comme à l'écrit, surtout. C'est ça, qu'on la parle, même si on la parle dans des dialectes, là, même si c'est pas vraiment ça. Là. Mais c'est ça, qu'on la parle de toutes sortes de façons, mais qu'on la parle, c'est super important.
Merci Charles Robert de nous avoir partagé vos impressions. Merci.
Eh bien, ça fait pas le plaisir.
À la prochaine fois. On se rend à Saint-Ours, retrouver la présidente du regroupement littéraire jeunesse de l'endroit, Diane Lapointe. Bonjour, Diane.
Bonjour, M. Rochon.
Alors, se tient chaque année sous l'égide de votre regroupement, chez vous, à Saint-Ours, un concours littéraire. Il en est à sa 16e édition. Il s'adresse aux 6-17 ans et vise précisément la valorisation du français.
Effectivement, c'est notre principale mission, c'est la valorisation du français et la façon qu'on a trouvé pour intéresser les jeunes à cette valorisation du français, c'est de leur offrir un concours littéraire et en plus du concours littéraire, la possibilité de faire éditer et imprimer leurs livres, ce qui en général intéresse beaucoup les jeunes auteurs et autrices.
Alors les jeunes écrivains là, de toutes les régions du Québec soumettent leurs romans, leurs nouvelles, leurs poésies, leurs contes ou leurs bandes dessinées?
Exactement. Le genre littéraire, c'est vraiment laissé à leur choix. Et peu importe le genre littéraire, je veux dire, il y a des prix qui sont associés au récit, c'est-à-dire aux romans, nouvelles et contes. Et il y a des prix aussi pour spécifiquement pour la bande dessinée. Et bientôt, on pense vraiment offrir des prix spécifiquement pour la poésie aussi, parce que c'est quand même relativement populaire.
Ils peuvent, les jeunes écrivains en herbe, là, pendant la période d'écriture, profiter de soutien, d'accompagnement?
Oui, effectivement, ils peuvent premièrement nous rejoindre n'importe quand par téléphone ou par courriel. Également, on a commencé à offrir en ligne des activités, des ateliers de création littéraire. On a offert cette année principalement concernant la narration et on continue vraiment là d'offrir de la formation en ligne au fil des années qui s'en viennent. Et en plus, la journée même du Salon du livre, l'avant-midi est consacré aux ateliers de création littéraire.
Après le dépôt là, de leur manuscrit, là, du texte final, les textes sont corrigés, annotés, retournés aux participants afin qu'ils prennent connaissance des erreurs relevées là, en orthographe et syntaxe, puis effectuent les corrections, c'est ça?
Exactement.
Alors, ça demande beaucoup d'organisation.
Ah oui. Ça demande beaucoup de réviseurs linguistiques parce que la période de correction est quand même relativement courte. Ça dure à peu près 3 mois. Et étant donné qu'il y a des allers-retours des textes entre la correctrice, parce que je dis correctrice parce que c'est juste des correctrices qu'on a cette année, on n'a pas de correcteur. Les correctrices retournent les textes reviennent, je veux dire, ça se promène d'un à l'autre comme ça jusqu'à ce que ce soit final. Alors, c'est beaucoup de manipulation, puis c'est vraiment très exigeant pour le jeune aussi, mais la plupart s'y prêtent vraiment avec beaucoup de bonne volonté.
La date limite pour remettre son manuscrit, elle est passée, c'était le 1er mars. Combien de participants cette année?
73.
Ça fait du monde.
Ah, ça fait du monde. C'est pour ça que aussi la période de révision linguistique est vraiment la période la plus occupée, la plus exigeante. Là.
La présidente du regroupement littéraire de Saint-Ours, que dirait-elle à propos de la relève littéraire francophone au Québec?
Ben, elle dirait qu'elle est obligée de dire que la relève littéraire se porte bien, étant donné qu'à chaque année, on a de plus en plus de participants. Et oui, je pense qu'on espère beaucoup que parmi nos participants, à un moment donné, on aura des auteurs et autrices qui en feront une carrière. Mais là, n'est pas le but, en fait. Là. C'est vraiment là, d'intéresser les jeunes à écrire, à s'exprimer en français, exprimer leur créativité. Et ça, ils le font très bien. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi nos participants maintenant, surtout de la région de Montréal, on a beaucoup de jeunes qui sont issus d'immigration, mais issus de, mettons, de deuxième génération, si on veut. Puis souvent, on parle aux parents, et les parents, on entend très bien que le français n'est pas leur première langue. Parfois même, certains parents ont beaucoup de difficultés à communiquer avec nous, mais le jeune qui va à l'école en français et qui participe au concours du regroupement littéraire, ben lui, évidemment, que la langue française ne lui cause pas...
Non, il parle un excellent français, j'en ai été témoin, j'en ai interviewé quelques-uns. En terminant, en 30 secondes, le conseil municipal de Saint-Ours a proclamé lors de la séance du 4 mars 2024 la ville de Saint-Ours capitale de la jeunesse littéraire.
Rien de moins, monsieur.
Rien de moins, madame. C'est beau. C'est beau.
Près de Trois-Rivières, qui est la capitale de la poésie, maintenant, c'est Saint-Ours, c'est la jeunesse littéraire.
Voilà. Merci beaucoup, Diane Lapointe. Merci.
Ça fait plaisir.
On poursuit après les publicités nos entretiens sur la situation du français au Québec, en compagnie cette fois de Yann McClure et Madeleine Blanche-Lucier.
Sur le rythme.
Du lundi au vendredi, sur le rythme le matin, c'est votre accompagnement rêvé au boulot ou à la maison. De 9h à midi, CJSO vous propose 180 minutes sans pub, 3 heures avec là-dedans juste vos chansons préférées. Et dès 13h jusqu'à 15h30, moi, Alex Trudel, je partage avec vous des nouvelles de vos artistes préférés, ma bonne humeur et on parle de nous à CJSO et CJSO.ca.
CJSO 101.7.
Entrepreneur, besoin de financement pour votre projet d'affaires? La SADC Pierre de Sorel est là pour vous. Nous offrons des solutions de financement souples qui répondent aux besoins spécifiques des entreprises d'ici et offrons un accompagnement technique qui aide les entreprises à mieux déployer leurs forces. Faites comme plusieurs entrepreneurs d'ici. Venez rencontrer un conseiller à votre SADC Pierre de Sorel.
Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC.
Tu aimes ça simple? Passe à la Grange à Houblon pour tes lunchs, tes soupers, tes collations, tes breuvages avec ou sans alcool ou même pour un petit café à emporter. Soupe, salade, sandwich, pâtes fraîches, pizza, sauce maison, viande locale, pain, produits végétariens, plats préparés sans gluten. Tout ça à la même adresse, la Grange à Houblon.
Vous êtes préoccupé par ce qui se passe chez vous?
La prise de conscience, ça s'est jamais faite à Ottawa en termes de perte du français, tant au Québec que dans le Canada.
Ne ratez pas la chronique du député fédéral de Bécancour, Nicolas Sorel, Louis Plamondon, tous les jeudis 7h15 dans Yatsé Matin, à CJSO.
Valérie, l'après-midi, c'est votre rendez-vous de fin de journée. Mon nom est Valérie Ferland. Ma mission, vous tirer un sourire, vous faire taper du pied et vous garder bien informé. J'ai la chance d'être accompagnée de Sylvain Rochon et de mes collaborateurs pour parler santé, lecture et vie au travail. Soyez là du lundi au jeudi dès 15h30.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune.
Alors, est-ce qu'il y a lieu d'être optimiste pour l'avenir du français chez nous? Est-ce qu'on le parle, l'écrit, le chante, l'adopte de plus en plus? Fait-on individuellement et collectivement ce qu'il faut pour en assurer à l'oral et à l'écrit la qualité et la survie? Est-ce que c'est une langue attractive pour celles et ceux qui, venus d'ailleurs et ne parlant pas français, élisent domicile chez nous? Je me tourne vers Yann McClure, qui est professeur d'histoire au cégep de Sorel-Tracy. Bonjour, Yann.
Bonjour, Sylvain. On parlait d'attractivité, là, quelques instants. Vous savez, la langue est intimement liée à la culture en tant que telle, puis le portrait qu'on peut faire en ce moment de cette langue-là, de notre côté, du côté des professeurs, c'est pas un portrait qui est très, très, très positif en ce moment.
Hey, Yann, je veux te demander quelque chose. Tu m'as partagé, quand je t'ai demandé de participer à cette émission, une anecdote Peux-tu la partager maintenant à nos auditeurs, l'anecdote là, sur les conversations en anglais dans les corridors du cégep?
Oui, tout à fait. Alors, on voit que l'anglais est de plus en plus attractif, là, même chez les jeunes au cégep. Donc, on peut lier ça à la crise des médias traditionnels, je dirais, où là, il n'y a plus le petit écran où on avait des référents communs, où la langue française était mise en scène à travers les différents émissions télévisuelles comme Virginie, pour ne nommer que celle-là. Puis, ils sont éclatés dans les différentes plateformes, ne serait-ce que Netflix, TikTok, Instagram et autres. Et puis, de leur côté, c'est pas là où on parle le plus le français. Hein. Et puis, donc, ils sont de moins en moins exposés, justement, à du contenu francophone. Et cela étant dit, les vieux également, quand je dis vieux, on peut parler de notre génération peut-être, mais c'est la réalité. Et comment ça se manifeste tout ça? C'est qu'à travers les corridors d'un cégep comme Sorel-Tracy, des Québécois de souche vont converser de plus en plus en anglais. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau et qui est fort étonnant et d'une certaine façon inquiétant.
Étrange, je dirais.
Oui.
Étrange. Mm-hmm. Est-ce que tu crois que les jeunes Québécois francophones sont conscients des luttes qu'il a fallu à leurs grands-parents mener pour, par exemple, travailler dans un environnement francophone?
Mais je dirais qu'ils intellectualisent peut-être un peu, et même la génération Z, celle-là même qui parle régulièrement en anglais, je dirais qu'ils intellectualisent qu'il y a eu des combats dans le passé, mais ils l'ont pas, comme je dirais, là, dans les tripes, là, comme les autres générations auparavant. Et c'est peut-être là où le bas blesse. Et de leur aveu eux-mêmes, mes étudiants me disent « Oh là là, ça va pas super bien le français, là ». Et puis ça, c'est sans compter aussi les problèmes de littératie. Les jeunes lisent de moins en moins. Donc, le rapport au livre et la langue sont intimement aussi liés. Donc, si on lit moins, on est peut-être moins intéressé de faire la conversation par la suite en français. On va passer rapidement un peu plus vers l'anglais. Et ça, on peut le voir jusque dans ma propre maisonnée où je peux constater que un de mes plus jeunes, ben, avec ses amis, et puis d'autres parents pourraient faire écho de ce genre de choses-là.
Oui, oui, absolument.
Ça passe en anglais, là.
Oui. Les grandes batailles, Yann McClure, les grandes batailles pour la langue, là, les manifs monstres, les marches à perte de vue de Québécois qui se portent à la défense du français, est-ce qu'on va revoir ça? Est-ce que c'est encore une question qui mobilise beaucoup aujourd'hui ou beaucoup moins aujourd'hui?
Je ne sais pas si c'est une... Je pense pas que ça mobilise autant. C'est plutôt les gens de notre génération qui se sentent mobilisés par ça. Tandis que, bon, les jeunes, de leur côté, sont peut-être un petit peu plus ailleurs, n'ayant de moins en moins de référents communs à cette culture-là québécoise. Quand je dis culture, je parle aussi de cette langue-là, parce que tout ça, c'est vraiment concomitant, comme on dit. Mais je croirais qu'il faudrait plonger un petit peu pour trouver des solutions à ça à travers un peu l'histoire de l'accueil de l'autre aussi, parce que les gens qui arrivent au Québec, eux autres aussi, vont éventuellement faire partie de cette société-là. Et je crois que c'est à travers eux qu'elle va passer par le maintien de cette langue-là. Il faut communiquer cet amour-là du français aux nouveaux arrivants et de cette culture-là québécoise. Maintenant, comment on fait? Moi, j'invite les gens à lire un peu le livre de M. Akoche-Verbotchier, Rhapsodie québécoise, itinéraire d'un enfant de la loi 101, pour comprendre c'est quoi les mécanismes d'accueil qu'on a actuellement. Et de fait, il faudrait peut-être trouver des solutions pour justement faire vibrer cette culture-là qui est la nôtre et cette langue-là, qu'on a et qu'on porte. Et ça, c'est pas simple.
Yann, merci beaucoup de nous avoir partagé tes impressions. Merci beaucoup.
Merci.
Salut bien. On termine cette émission à la chaleur puisque Madeleine Blanche-Lucie nous attend en Floride. Bonjour, Madame Lucier.
Bonjour, M. Rochon. Ça va bien?
Mais oui. Est-ce que vous êtes dans un coin petit Québec de la Floride?
Non.
Alors, vous baignez, là, vous, dans un univers là, anglo-saxon, là?
Ah, ben, je dirais pas anglo-saxon. Je dirais même américain.
Oui.
Quelques francophones, mais... surtout entouré d'Américains.
Je vous sais, Madeleine Blanche-Lucier, très attachée au français, soucieuse de l'entendre bien parler et de le voir bien écrit. Quel regard portez-vous sur la qualité du français au Québec?
Malheureusement, je suis un petit peu pessimiste, sinon assez pessimiste. Je je ne sens plus cette passion, cet amour pour le français, pour la langue. Écoutez, moi, je vous parle de quelqu'un d'un âge certain. Je ne sens plus cette passion-là. Donc, quand on n'a pas la passion de la langue, c'est difficile de l'imposer. C'est difficile d'en faire un cheval de bataille. Puis je le vois très bien chez mes petites filles. J'ai été des années à les reprendre quand elles parlaient, puis j'ai cessé parce que j'étais rendue une grand-mère chippie. Ce n'est pas un enjeu important pour elles. Elles sont dans le mondial, dans l'universel. Et moi, je suis pessimiste dans le sens où si on ne développe pas l'amour de la langue à la maison, d'abord avec les parents qui le parlent correctement, puis qui reprennent les enfants, ensuite à l'école, ensuite avec des programmes gouvernementaux, bien, une langue, ça ne survit pas tout seul. C'est comme une plante qu'on n'arrose pas, là.
Alors, vous êtes, ce que j'entends, c'est que vous êtes très préoccupé par l'avenir du français chez nous.
Ah, mon Dieu, oui. Assez préoccupé, assez pessimiste, malheureusement, parce que c'est pas dans ma nature d'être pessimiste, mais oui, je suis assez pessimiste.
Quel est, croyez-vous, le pire ennemi? Bon, il y avait une partie de réponse dans celle que vous avez donnée à mes questions précédentes, mais quel est, croyez-vous, le pire ennemi du français, ce qui conduit à son déclin, ce qui entrave sa progression?
Moi, je dirais que c'est multifactoriel, parce que il y a une réponse, je dirais, de ceux qui sont ici, de nous, qui n'avons plus cette passion, cette flamme pour une langue, je dis pas une langue à la Molière, là, mais une langue parlée correctement, avec un sujet, un verbe, un complément, puis des accords. Et il y a aussi la part importante, de plus en plus importante de l'immigration. Ces deux-là sont interconnectés. Là. On ne peut pas demander à des immigrés de parler une langue que nous-mêmes, on ne parle pas bien ou qu'on n'a pas à cœur de parler.
Alors, la survie du français, là, vous dites un peu ce qu'a dit à peu près en début d'émission Nathalie Rochefort. La survie du français, ça repose aussi beaucoup, peut-être surtout même sur les locuteurs francophones eux-mêmes, sur la façon dont ils parlent et écrivent le français. Une langue qu'ils négligent eux-mêmes, ça ne fait pas une langue attractive pour ceux venus d'ailleurs qui ne parlent pas français.
Et non, puis si on se mettait, nous, comme immigrés ailleurs, puis qu'on était dans un environnement où les gens parlent une autre langue que mettons, leur belle langue, puis tout ça, mais je vois pas pourquoi nous, on ferait des efforts, je dirais, démesurés, alors qu'eux ne font pas d'efforts. La langue, c'est comme la culture, c'est l'exemple, c'est l'apprentissage dans la famille, à l'école, avec des programmes gouvernementaux cohérents, avec de la cohésion. Alors, un immigré qui arrive ici, pour avoir travaillé longtemps en immigration, il arrive d'abord en Amérique du Nord, ensuite au Canada, puis au Québec. Et ce qu'il veut, c'est travailler, améliorer le sort de ses enfants, même pas le sien, mais le sort de ses enfants. Alors, le message qu'on lui envoie, c'est que tu n'as pas nécessairement besoin de parler un bon français. Tu n'as pas besoin de parler français parce que tu as des alternatives. Et moi, je trouve que là-dessus, on est assez négligent.
Je vous remercie beaucoup pour ce son de cloche, Madeleine Blanche-Lucier. Merci, et puis bonne continuité en Floride.
Merci, au plaisir.
Merci. Merci, Madeleine Blanche-Lucier. Merci à l'ensemble de mes invités. Mario Beaulieu, Françoise Crête, Diane Lapointe, J.C. Lauzon, Yann McClure, Charles Robert et Nathalie Rochefort. Merci à Laurent Cournoyer au standard téléphonique. Et je vous dis à mardi prochain pour une autre tribune.